Aristote, Politique, livre 4, ordinairement classé le 7e. Théorie générale de la cité parfaite. Chapitre 1er, sommaire. Théorie de la République parfaite. Recherche préliminaire de la vie la plus parfaite. Division des biens dont l'homme peut jouir. Bien extérieur, bien de l'âme, supériorité de ces derniers, le bonheur est toujours en proportion de la vertu, les faits et la raison le prouvent. Paragraphe 1. Quand on veut étudier la question de la République parfaite, avec tout le soin qu'elle exige, il faut préciser d'abord quel est le genre de vie qui mérite surtout notre préférence. Si on l'ignore, on doit nécessairement ignorer aussi quel est le gouvernement par excellence, car il est naturel qu'un gouvernement parfait assure aux citoyens qu'il régit dans le cours ordinaire des choses la jouissance du bonheur le plus parfait que comportent leurs conditions. Ainsi, convenons d'abord quel est le genre de vie qui serait préférable pour tous les hommes en général. Et nous verrons ensuite s'il est le même ou s'il est différent pour la masse et pour l'individu. Paragraphe 2. Comme nous pensons avoir montré suffisamment dans nos ouvrages exotériques ce qu'est la vie la plus parfaite, nous appliquerons ici nos principes. Un premier point que personne ne saurait contester, parce qu'il est de toute vérité, c'est que les avantages dont l'homme peut jouir se divisant en trois classes. Avantages qui sont en dehors de lui, avantages du corps, avantages de l'âme. Le bonheur consiste dans la réunion de tous ses biens. Personne ne serait tenté de croire au bonheur d'un homme qui n'aurait ni courage, ni tempérance, ni justice, ni sagesse, qui tremblerait au vol d'une mouche, qui se livrerait sans réserve à ses appétits grossiers de soif et de faim, qui, pour le quart du obole, serait prêt à trahir ses amis les plus chers, et qui, non moins dégradé en fait d'intelligence, serait déraisonnable et crédule autant qu'un enfant ou un insensé. Paragraphe 3. On considère sans peine tous ces points quand on les présente ainsi. Mais dans la pratique, on ne s'accorde ni sur la mesure, ni sur la valeur relative de ces biens. On se croit toujours assez de vertu pour peu qu'on en ait. Mais richesse, fortune, pouvoir, réputation, à tous ces biens-là, on ne veut jamais de bornes en quelque quantité qu'on les possède. Aux hommes insatiables, nous dirons qu'ils pourraient ici se convaincre sans peine, par les faits même, que les biens extérieurs, loin de nous acquérir et de nous conserver les vertus, sont au contraire acquis et conservés par elles. Que le bonheur, soit qu'on le place dans les jouissances ou dans la vertu, ou bien dans l'un et l'autre à la fois, appartient surtout aux cœurs les plus purs, aux intelligences les plus distinguées, et qu'il est fait pour les hommes modérés dans l'amour de ces biens qui tiennent si peu à nous, plutôt que pour les hommes qui, possédant ces biens extérieurs fort au-delà des besoins, restent pourtant si pauvres des véritables richesses. Paragraphe 4. Indépendamment des faits, la raison seule suffit à bien démontrer ceci. Les biens extérieurs ont une limite comme tout autre instrument. Et les choses qu'on dit si utiles sont précisément celles dont l'abondance nous embarrasse inévitablement ou ne nous sert vraiment en rien. Pour les biens de l'âme, au contraire, c'est en proportion même de leur abondance qu'ils nous sont utiles. Si toutefois, il convient de parler d'utilité dans des choses qui sont avant tout essentiellement belles. En général, il est évident que la perfection suprême de choses que l'on compare, pour connaître la supériorité de l'une sur l'autre, est toujours en rapport direct avec la distance même où sont entre elles ces choses, dont nous étudions les qualités spéciales. Si donc l'âme a parlé d'une manière absolue, et même relativement à nous, est plus précieuse que la richesse, et que le corps, sa perfection et la leur seront dans une relation analogue. Suivant les lois de la nature, tous les biens extérieurs ne sont désirables que dans l'intérêt de l'âme, et les hommes sages ne doivent les souhaiter que pour elles, tandis que l'âme ne doit jamais être considérée en vue de ses biens. Paragraphe 5. Ainsi, nous regarderons comme un point parfaitement accordé que le bonheur est toujours en proportion de la vertu et de la sagesse, et de la soumission à leurs lois, prenant ici pour témoin de nos paroles Dieu lui-même, dont la félicité suprême ne dépend pas de biens extérieurs, mais est toute en lui-même et dans l'essence de sa propre nature. Aussi, la différence du bonheur à la fortune consiste nécessairement en ce que les circonstances fortuites et le hasard peuvent nous procurer les biens placés en dehors de l'âme, tandis que l'homme n'est ni juste ni sage au hasard ou par l'effet du hasard. Une conséquence de ce principe, appuyée sur les mêmes raisons, c'est que l'état le plus parfait est en même temps le plus heureux et le plus prospère. Le bonheur ne peut jamais suivre le vice. L'état, non plus que l'homme, ne réussit qu'à la condition de la vertu et de la sagesse. Pour l'état, le courage, la sagesse, la vertu se produisent avec la même portée, avec les mêmes formes qu'elles ont dans l'individu, et c'est même parce que l'individu les possède qu'il est appelé juste, sage et tempérant. Paragraphe 6. Nous ne pousserons pas plus loin ces idées préliminaires. Il nous était impossible de ne point toucher ce sujet, mais ce n'est pas ici le lieu de lui donner tous les développements qu'il comporte. Ils appartiennent à un autre ouvrage. Constatons seulement que le but essentiel de la vie pour l'individu isolé, aussi bien que pour l'État en général, c'est d'atteindre à ce noble degré de la vertu, de faire tout ce qu'elle ordonne. Quant aux objections qu'on peut adresser à ce principe, nous n'y répondrons point dans la discussion actuelle, comptant les examiner plus tard s'il subsiste encore des doutes après qu'on nous aura entendus.